Docteur François Marquis, qui est chef des services de soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pourquoi? Ben parce que le ministre de la Santé, Christian Dubé, là, est de plus en plus inquiet devant la montée des cas quotidiens d'infection au coronavirus qui se transforme, évidemment, par des cas d'hospitalisation dans nos hôpitaux. On a un bel exemple aujourd'hui, juste à Montréal. Les hospitalisations dues à la COVID sont en forte hausse, avec 113 personnes hospitalisées, dont 43 aux soins intensifs. Docteur Marquis, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, c'est quoi la différence avec il y a une semaine, deux semaines dans votre unité de soins intensifs?
Ben, il y a deux semaines, il y avait de la place, puis là, il n'y en a pas.
Tout simplement.
Ben, en fait, c'est pas mal ça. C'est que l'augmentation de la vague étant exponentielle, puis on n'a plus beaucoup de place dans les soins intensifs, là. C'est que pour tout le Québec, l'idée, c'est que rapidement, les places se sont remplies. On a des cibles qui sont assignées par le ministère pour chaque hôpital. Nous, on est plein. Il y a d'autres hôpitaux aussi qui sont pleins. Ceux qui sont pas pleins reçoivent plus de patients. On se les échange. Et après, la prochaine étape, c'est d'ouvrir au prochain... à la prochaine étape, ce qui veut pénaliser encore plus de patients en termes d'accessibilité des salles d'op et des choses comme ça. C'est un truc en échelle. Le problème avec le Delta, c'est que c'est contagieux, pas à peu près, c'est ça le problème.
Expliquez aux gens, parce que le commentaire que je reçois souvent, Dr. Marquis, c'est, bon, écoutez, on a un système de santé, puis là, parce que on a quelques cas de plus dans les hôpitaux, aux soins intensifs, oups, on le dit de façon sarcastique, le système déborde. Expliquez comment ça se passe sur le plancher.
Ben c'est bien, bien simple. On a un nombre physique de lits de soins intensifs, OK? Mettons pour une unité, mettons qu'on va dire 30 lits, pour dire quelque chose. Ces 30 lits-là sont pas tous disponibles parce qu'il manque de personnel. C'est que prenons un hôpital complètement hypothétique, on tombe à 15 lits. Ça, c'est le nombre de lits qu'on est capable de dresser. Donc, le nombre de lits qu'on est capable d'assigner, de mettre des patients dedans. Si j'ai 4 de ces lits-là qui sont pour le COVID, bien, à partir de là, le problème, c'est que c'est de moins en moins de lits qui sont disponibles pour des salles d'opération. C'est juste, ça tombe vite comme ça.
Normalement, en temps normal, je veux comprendre, puis je veux que les gens comprennent là, le fonctionnement des soins intensifs. Normalement, hors COVID, là,
oui.
Quelle sorte de patients se retrouvent dans une unité de soins intensifs comme la vôtre?
Donc, nous, on est une unité médico-chirurgicale, ça peut changer d'un hôpital à l'autre, mais disons, il y a à peu près la moitié de mes patients qui viennent suite à des opérations pour de la surveillance après une opération critique, chirurgie vasculaire, chirurgie thoracique, des grosses opérations oncologiques où on veut s'assurer, neurochirurgie, qu'ils n'ont pas de complications. Donc, eux, pour que l'opération se fasse, il faut qu'il y ait un lit de garantie. Et l'autre moitié vient de patients qui arrivent à l'hôpital avec une maladie critique qu'on peut pas traiter à l'étage, c'est qu'on se dit « wow, il est tellement malade, direction les soins intensifs directement ». Classiquement, des infections, des saignements. Pour d'autres hôpitaux, c'est de la traumatologie. Donc, c'est 50-50. Là, présentement, le problème, c'est que les seuls qu'on peut contrôler, c'est les opérations, parce que les autres y arrivent, vous comprenez? Je peux pas dire à quelqu'un, « Hey, fais pas d'infection, là, il y a pas de place. » Donc, ceux qu'on contrôle, c'est les opérations. Donc, c'est malheureusement ceux qui se font annuler. Et là, tranquillement, l'unité, qui était 50-50, devient 100% médicale. Et là-dessus, avec des COVID qui prennent la place de tout le monde.
Si je comprends bien, là, quand vous dites tout ce qu'on peut contrôler, c'est les chirurgies, les complications post-opératoires, ça, vous le contrôlez en faisant moins d'opérations. Mais il n'y a pas moins de monde qui tombe des échelles en nettoyant leur gouttière. Il n'y a pas moins de gens qui se font qui tombent en vélo. Il n'y a pas moins de gens qui ont des infarctus.
C'est exactement ça. Ceux-là, on ne les contrôle pas. Et c'est eux qui, ajoutés avec les COVID, finissent par avoir un impact. Sans oublier qu'il y a des gens qui étaient en attente de chirurgie pour une très bonne raison. Et là, soudainement, pour dire quelque chose, leur anévrisme d'aorte, qui était supposé être une chirurgie élective, ben l'anévrisme éclate et là, il faut les opérer en urgence, okay. Ce qui fait qu'eux ne peuvent pas attendre. Il faut comprendre, il y a personne qui meurt parce qu'on les opère pas dans les médias en disant « Ah, ben regarde, là, t'as... »
Mais il y a des gens qui souffrent.
Mais il y a définitivement des gens qui souffrent. Puis il y a plein de gens qui ont besoin d'opérations qui ne sont pas là pour sauver leur vie, mais qui sont là pour les ramener au travail ou pour améliorer leur qualité de vie. Et ça a un impact. ou des chirurgies oncologiques, ils ont besoin de se faire opérer là. Ça va pas sauver leur vie là maintenant, mais je pense que tout le monde peut comprendre que quand on est en liste d'attente pour un cancer, on a hâte qu'il sorte.
Docteur Marquis, vous l'avez dit, là, il y a aussi, c'est pas le nombre de lits, c'est le nombre d'employés qu'on a pour s'occuper des patients dans les lits. Et là, on manque d'employés, il y a 4000 infirmières là, qui manquent à l'appel. Là. Si on avait un réseau optimal qui faisait pas fuir ces infirmières, est-ce qu'on serait en train, malgré le Delta, d'avoir cette conversation aujourd'hui?
Je pense qu'on serait beaucoup plus optimiste et qu'on pourrait dire des choses du genre « Le Delta est préoccupant, il y a beaucoup d'hospitalisations, mais nous sommes capables de maintenir nos activités. » Je pense qu'on c'est de ça qu'on serait en train de se dire. On continuerait de dire aux gens « Allez vous faire vacciner, c'est important. » On continuerait de dire « Faut faire attention de contrôler la COVID », mais on pourrait peut-être avoir un message plus positif en disant des choses comme « Mais pour l'instant, ça va bien, on a à peine ralenti le programme opératoire où ça n'a pas un impact notable sur le reste du réseau. » C'est cette partie-là, malheureusement, qu'on peut pas échanger. Là, ça a un impact monstrueux sur le réseau.
Dernière question, Dr. Marquis. Puis là, il y a quelqu'un qui... c'est la question de quelqu'un qui m'écrit dans ma messagerie. J'ai déjà écrit là-dessus. J'ai consulté d'autres de vos collègues de médecins de soins intensifs. Quelqu'un qui m'écrit, parce qu'on sait que c'est une pandémie, là, c'est une quatrième vague de gens qui sont pas vaccinés. Les gens qui se retrouvent dans vos unités présentement, majoritairement, sont pas vaccinés. Quelqu'un me dit, est-ce qu'on va prioriser des gens qui sont déjà malades avant les non-vaccinés?
Présentement, ce n'est pas le cas. C'est absolument selon les besoins. Est-ce que ça pourrait avoir, est-ce que ça pourrait dégénérer au point qu'on devrait choisir? C'est absolument possible. On avait parlé du fameux triage avancé, cette idée-là du triage avancé pourrait se réimposer d'elle-même. Pour l'instant, on n'a pas besoin de faire ces choix-là. Est-ce qu'on est à l'abri de ces choix-là? Certainement pas. Il y a malheureusement trop de personnes pas vaccinées.
Est-ce que vous estimez, comme plusieurs de vos collègues, que si on arrive à un tri, un protocole de triage, le fait que la personne soit vaccinée ou non, ça ne devrait pas compter?
Ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le triage. Le triage est imparfait. On essaie juste d'avoir la meilleure situation possible. Maintenant, il y a différentes raisons pour lesquelles on est vacciné ou pas vacciné. Les critères de triage, c'est vraiment compliqué. Bien honnêtement, ça se répond pas aussi simplement que ça. Okay. Si on décide de rentrer ça comme choix, ce qu'on pourrait faire comme société, ça va avoir des implications aussi pour d'autres choix. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui suit sa chimiothérapie ou est-ce que quelqu'un qui fume ou est-ce que quelqu'un qui... Tu sais, il y a plein de choses intéressantes si on rentre là-dedans sur lesquelles on pourrait faire non seulement une entrevue, mais probablement une émission au complet. C'est absolument un nid de guêpe rentrer là-dedans. Je dis pas qu'il va pas falloir rentrer dedans, mais ça se répond certainement pas par oui ou par non, cette question-là.
Et on préférerait pas se rendre jusque-là.
Ah, personne veut se rendre là. Croyez-moi, personne veut se rendre là.
Merci, Dr. Marquis. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Dr. François Marquis, des soins intensifs.